Vous écoutez la radio Okapi, une voix pour tous, le magazine Okapi Service se poursuit. C'est la deuxième partie de ce magazine. Nous allons parler des mandats de justice. Eh bien, un citoyen peut être convoqué par les juges pour être entendu dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. Le procureur peut décerner certains mandats, par exemple le mandat de recherche dans les cas des crimes ou délits flagrants. Lorsque le mandat est déposé par un huissier ou par un membre de la police judiciaire ou un agent de l'ordre, généralement la personne convoquée doit se présenter dans les 48 heures pour être interrogée. Alors quels sont les différents types de mandats de justice? Qu'est-ce qui est prévu si la personne convoquée refuse de se présenter? Eh bien, on aura les réponses à toutes ces questions avec notre invité, Maître Charles Mushizi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Charles, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons des mandats de la justice. Qu'est-ce qu'on entend par mandat de justice?
Un mandat de justice, c'est toute pièce de procédure qui est décernée généralement par le parquet, ça veut dire le ministère public, dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte ou d'une instruction préjuridictionnelle, ça veut dire les procédures avant d'arriver devant le juge de jugement, si on peut le dire, et qui fait injonction à toute personne qui est demandée de comparaître devant le ministère public, devant l'autorité, de se présenter dans le délai qui est requis et à l'heure qui est inscrite sur la pièce de procédure. C'est en fait une procédure qui vise juste à faire comparaître un justiciable, voilà.
Bien. Et quel est le but d'un mandat?
C'est juste pour d'abord inviter la personne, permettre à la personne de se préparer, de préparer ses moyens de défense, parce qu'en principe, l'accusation qui lui est faite, à son encontre, doit être mentionnée sur le document, ce qui n'est généralement pas le cas et c'est décrié, mais aussi pour permettre à ce qu'il y ait une documentation de la procédure, la régularité de la procédure. Et donc, en termes de la manière avec laquelle la justice a agi, non seulement pour faire comparaître la personne, mais pour s'assurer aussi que cette personne s'est préparée à préparer ses moyens de défense.
Donc, on peut dire que toute personne qui fait l'objet d'un mandat est une personne suspecte?
Suspecte, je ne le dirais pas, mais en tout cas, sur fond...
Allô, Maître Charles. Voilà, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique avec Maître Charles Mushizi, qui était en train d'expliquer pourquoi un mandat qui est concerné. Est-ce que toute personne qui fait l'objet d'un mandat est une personne suspecte? Maître, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Allez-y. Il y a eu coupure à un certain moment.
Parler de suspect, c'est déjà violer le principe de violer la présomption d'innocence. En ce sens que la personne qui est demandée de comparaître lorsqu'elle est encore n'est pas encore jugée de manière définitive par un tribunal indépendant, comme on dit, elle bénéficie de toute sa présomption d'innocence et donc elle ne peut pas être traitée de suspecte. Elle peut être à la limite traitée de présumée coupable de l'infraction, présumée tant que sa culpabilité n'est pas établie de manière définitive. Et le parquet peut inviter par mandat de comparution, par mandat d'amener, toute personne qu'il croit nécessaire d'entendre sur procès verbal et dont la présence ou les déclarations peuvent être de nature à étayer à appuyer son enquête et à apporter des éléments complémentaires, en tout cas probants, pour établir une culpabilité en cas d'une enquête criminelle.
Bien, et quels sont les différents types ou sortes de mandats de justice qui existent?
Il y en a plusieurs, comme je le disais tout de suite, c'est d'abord le mandat de comparution qui est généralement émis lorsque les faits sont constitutifs d'infraction. Souvent les faits sont instruits sous le registre du ministère public, ça veut dire le RMP.
Un exemple, un exemple pour un mandat de comparution.
Pour un mandat de comparution, ça veut dire que lorsque le juge, le ministère public reçoit une plainte et qu'elle considère que les faits sont graves et que sur base de son appréciation préalable, il estime qu'il y a effectivement, les faits sont effectivement constitutifs d'infraction, il ouvre un dossier sous le registre du ministère public, et ça s'appelle RMP généralement, et en ce moment-là, la personne qui est mise en cause, la personne qui est accusée, est invitée à comparaître par le biais d'un mandat de comparution.
Ça peut être par exemple pour un cas de viol, par exemple.
Par exemple, parce que c'est des faits déjà graves, sous réserve d'être établi ultérieurement par des rapports médicaux et autres, des enquêtes supplémentaires, lorsque le magistrat reçoit une plainte sur fond de viol, et qu'il estime qu'il y a lieu, que selon ses premières appréciations, ses premières enquêtes, les faits sont graves et peuvent être constitutifs d'infraction, il ouvre un registre du ministère public RMP sur base duquel il invite les accusés ou l'accusé par le biais d'un mandat de comparution.
Bien. Alors vous avez parlé du mandat de comparution et les autres sortes de types de mandats.
Alors, il y a le mandat d'amener qui est émis à l'endroit de la personne mise en cause lorsque celle-ci n'a pas déféré à deux autres mandats de comparution préalablement établis par le parquet. Ça veut dire que lorsque la personne n'a pas coopéré, n'a pas rendu la tâche facile à l'enquête du parquet, là, ça devient une mesure de contrainte pour l'obliger à comparaître. Elle est exécutée, celle-là, non pas de manière volontaire, mais de manière forcée. Et ce sont des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire qui descendent sur les lieux, qui se saisissent de l'individu qui a résisté à comparaître pour le faire comparaître par force devant le magistrat qui instruit le dossier.
Et si la personne, est-ce que pour un cas de mandat d'amener, on doit informer la personne concernée avant ou on l'informe pas du tout?
Lorsque le parquet émet un mandat d'amener, ça veut dire qu'il a déjà émis deux mandats de comparution qui sont restés infructueux, ou même alors des invitations auxquelles le justiciable a refusé de déférer. Ça devient une mesure de contrainte pour le faire comparaître.
D'accord. Un autre type de mandat?
Vous avez le mandat de prise de corps ou le mandat de dépôt qui s'exécute plutôt dans le cadre de l'exécution d'une peine prononcée par le juge. Et c'est généralement lorsque le ministère public, qui est de par la loi chargé d'assurer l'exécution des jugements au pénal, pas au civil, qui est obligé d'appréhender la personne qui a été condamnée, et de la remettre entre les mains des autorités qui ont en charge de l'administration carcérale où la personne condamnée est censée purger sa peine. En ce moment-là, la personne condamnée est recherchée, elle est appréhendée par force, par les forces de l'ordre, si je dois me redire, et amenée à l'endroit dans le bâtiment, dans l'établissement carcéral où elle est censée purger sa peine, et à Kinshasa par exemple ou ailleurs, ce sont des prisons centrales.
Bien, ça c'est le mandat de
le mandat de prise de corps et le mandat de dépôt peuvent s'exécuter dans ces mêmes procédures là. Et donc vous avez le mandat de comparution qui est émis pour inviter une personne à comparaître devant le magistrat qui instruit. Et la personne a droit à recevoir deux mandats de comparution, au-delà desquels, si elle n'a pas coopéré avec la justice, si elle n'a pas déféré à cette invitation de la justice, il lui est décerné un mandat d'amener.
Bien. Avant de parler aussi des autres types de mandats, on va accueillir Charles Kisimba de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à Maître Charles.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais un peu savoir, par rapport aux justiciables nationaux et ceux-là qui sont à l'étranger, est-ce que les délais dans les mandats de comparution, les délais restent les mêmes ou bien il y a la différence? Et puis, j'aimerais aussi savoir, concernant les particuliers et les politiciens, est-ce que nous utilisons les mêmes droits? Est-ce que la procédure, elle est la même? Parce que nous assistons souvent, tout politicien, avant d'aller comparaître, il va d'abord commencer par chanter à la longueur de la journée. Oh, il s'agit d'acharnement, de supercherie, de choses comme ça. Est-ce que, avec les politiciens aussi, ainsi que les paisibles citoyens, les particuliers, la procédure, elle est la même ou bien elle est différente? Voilà un peu mes petites questions aujourd'hui.
Merci Charles. Maître Charles, à vous la parole.
La procédure n'est pas à proprement parler différente, hein. Sauf que la loi, le législateur a prévu un certain nombre de mesures particulières avec lesquelles il traite les personnes qui ont en charge un certain nombre d'obligations étatiques. Il peut s'agir de militaires, de ministres, il peut s'agir des directeurs d'administration, des directeurs généraux, etc., à l'égard de qui il est créé une sorte, enfin ce que le législateur lui-même appelle les privilèges de poursuite, les privilèges de juridiction, et les privilèges de juridiction, ça peut être deux choses différentes. Mais pour ce qui est des faits instruits devant le parquet, la procédure est la même. La procédure à laquelle les parquets généraux recourent généralement pour inviter les autorités, qui s'appelle invitation, et on a vu ça dans l'affaire Caméré ou dans l'affaire des procès de 100 jours, n'est pas prescrite par la loi. En tout cas, il n'y a aucune disposition qui demande à un magistrat de décerner des invitations. Le magistrat ne décerne que les mandats de comparution pour faire comparaître volontairement la personne qu'il veut entendre et un mandat d'amener pour le faire comparaître par force. Mais il faut faire alors la différence lorsque les faits se sont déroulés au pays et que la personne se trouve, le responsable des faits se trouve à l'étranger, ou plutôt que la personne se trouve à l'étranger, mais qu'elle a commis des faits infractionnels dont, pour lesquels les juridictions congolaises sont compétentes. En ce moment-là, lorsque le parquet enquête, il peut recourir à ce qu'on appelle la commission rogatoire. La commission rogatoire, c'est un mécanisme par lequel le magistrat du parquet au Congo demande au magistrat du parquet du pays où se trouve la personne recherchée par la justice de procéder à un certain nombre d'actes pour conduire une enquête et établir les responsabilités de cette personne pour cette infraction qui a été commise sur le sol congolais ou ailleurs, mais pour lesquelles les juges congolais est compétent. Et donc, il faut faire cette différence. Et ça s'inscrit généralement dans ce qu'on appelle, au niveau de la coopération régionale ou de la diplomatie ou même de la coopération internationale, ça s'inscrit généralement dans le cadre d'une convention de coopération judiciaire entre le pays, les deux pays qui se demandent mutuellement ou l'un ou l'autre qui demande à l'un ou à l'autre de procéder à des procédures particulières pour établir la culpabilité ou l'innocence d'une personne qui est poursuivie, recherchée en tout cas par la justice congolaise.
Bien, on va accueillir un autre auditeur, Jean-Jacques Kabongo de Kinshasa, bonjour.
Parole Radio Kapi, bonjour service.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au mandat de justice?
Merci, d'abord je précise que la thématique du jour est résolue par en fait, les décrets, pourtant la procédure pénale congolaise et vous avez encore parlé de la flagrance, j'ai vu aussi et là aussi il faut citer aussi l'ordonnance sur la répression des infractions flagrantes ou réputées telles, ainsi que l'ordonnance portant les attributions des OPG. Alors effectivement, d'emblée nous faisons savoir que celui qui a la compétence, donc la capacité de pouvoir délivrer un mandat de comparution, c'est le ministère public ou les parquets au sens de l'ordonnance du décret portant même la procédure pénale congolaise. Le mandat de comparution consiste seulement à lorsqu'il y a eu infraction qui est commise, alors et que le parquet veut entendre la personne, et il décerne un mandat de comparution pour que la personne puisse répondre à ce mandat. C'est lorsque ce dernier n'a pas satisfait au mandat lui décerné par le parquet que ce dernier peut alors décerner contre lui un mandat d'amener qui consistera à amener la personne manu militari par la force publique afin que cette dernière puisse venir comparaître en personne devant le parquet. Et encore à part ça, il faut aussi faire la part des choses, la différence entre mandat de comparution, mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt provisoire, que toujours le parquet est l'autorité compétente à pouvoir décerner, mais selon des différentes circonstances. Alors, nous voulons un peu savoir auprès des invités, sur base de quel test, quelle loi, sur base de quel sous-bassement juridique, le parquet parfois délivre des convocations, des invitations. Alors nous demandons jusque-là, c'est sur base de quoi, puisqu'on a tout comme les tests juridiques qui confèrent au parquet ces pouvoirs-là, de pouvoir décerner le mandat de comparution ainsi que les autres mandats, comme je venais de le dire.
Merci.
Et concernant la flagrance, il est bien dit dans la loi que en cas d'une infraction flagrante ou répétée telle qui vient de se commettre, je crois que c'est l'article 6 du décret portant la procédure pénale, toute personne, même moi qui vous parle, je peux saisir la personne qui vient de commettre l'infraction sur le lieu et amener cette personne auprès de l'autorité judiciaire la plus proche. Mais à des conditions. La première condition est que sur cette place, sur les lieux même de la commission de l'infraction, qu'il n'y ait pas la présence d'une autorité judiciaire, un OPJ ou bien un ministère, ou bien les agents du parquet, le ministère public. Et la deuxième condition est que l'infraction qu'a commise la personne soit punissable au moins 3 mois. C'est-à-dire si quelqu'un commettait les vols, vu que le vol est puni de 5 ans de servitude pénale, donc moi, personnellement, je n'ai pas le droit là d'arrêter la personne et de l'acheminer vers l'autorité judiciaire la plus proche. Pourquoi ? Puisque le vol n'est pas puni de 3 mois au moins, il est puni de 5 ans.
Mais d'accord.
Après, vraiment, c'est d'autres choses qui se passent.
Mais merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques. L'invité va répondre. Maître Charles, vous avez la parole.
Il y a eu beaucoup d'amalgame dans l'intervention de l'ami de tout à l'heure.
Oui.
Je le salue, je le félicite. Je lui demanderai de relire un peu les dispositions des articles 5 et 6, effectivement, du décret de 1950, qui porte le code de procédure pénale en République démocratique du Congo. Cet article parle plutôt d'une infraction punissable d'au moins 6 mois, et l'exemple qu'il a donné du vol rentre bel et bien dans le cas de figure des infractions pour lesquelles n'importe qui peut appréhender l'infracteur et le conduire devant l'autorité compétente, contrairement à ce qu'il a dit. Et donc Ça, il faut dire plutôt ça pour ne pas induire peut-être les auditeurs en erreur, et pour juste des raisons de pédagogie, hein, des raisons didactiques. Ça n'a rien à voir avec un débat contradictoire. Par contre, et je l'avais déjà dit, la pratique selon laquelle les parquets recourent à l'invitation pour faire comparaître les justiciables n'est pas légale. Elle ressort d'une certaine pratique qui n'a aucune assise légale, mais qui a tellement pris de l'ampleur depuis des années qu'elle devient une pratique, bien sûr contre-légale, mais elle devient une pratique par laquelle les parquets généraux, généralement, ont l'habitude de faire comparaître les justiciables. Ce qu'il faut déplorer par cette pratique-là de l'invitation, c'est qu'en fait, elle est utilisée de manière à surprendre la bonne volonté, malheureusement, du justiciable, qui se dit qu'une invitation est un document plutôt qui l'appelle à coopérer de manière courtoise avec la justice, alors que bien souvent, et on l'a vu, on l'a déploré dans le dossier, dans plusieurs dossiers de procès de 100 jours, le parquet général a recouru à des invitations pour surprendre la bonne foi du justiciable et après l'inculper au même jour qu'il a comparu, alors qu'il est venu en se disant, en bon citoyen, je suis invité, il ne s'agit pas d'un mandat de comparution, il ne s'agit pas d'un mandat d'amener, donc le dossier n'est pas pénal, et donc qui ont été vraiment, et il faut le déplorer, très désagréablement surpris par le fait que tout de suite, en fait, le magistrat avait déjà son dossier instruit en coulisses et il les a surpris de manière désagréable en les inculpant sur fond d'une pièce de procédure qui n'est pas établie par la loi et qui n'a aucune assise juridique.
Donc maître, on peut comprendre que
ce n'est pas une pièce de procédure consacrée par le code de procédure pénale.
Ouais, je voulais dire d'ailleurs qu'en dehors du mandat, on peut avoir aussi une invitation.
C'est une pratique justement des parquets, mais qui n'a aucune justification légale. Cette invitation, rien n'empêche en fait au parquet de faire simplement un mandat de comparution, ou alors de pousser à une réforme du décret de 1950 qui date quand même d'une certaine période pour y insérer cette pratique de l'invitation. Mais en attendant, l'invitation n'est pas une pièce de procédure consacrée par le code de procédure pénale. Dans la pratique, au niveau du parquet général, l'invitation du parquet de grande instance, l'invitation est généralement utilisée pour des personnes qui n'assument pas ou qui visiblement n'assument pas une responsabilité pénale pour des faits qui sont examinés devant le parquet. Mais là aussi, c'est très hasardeux parce que le parquet ne peut pas a priori savoir qu'une personne assume une responsabilité pénale ou pas, accusée ou pas, parce que c'est de l'audition sur procès verbal que découle la responsabilité de cette personne, qu'elle ait été appelée à comparaître sur base de l'invitation ou de mandat de comparution. Parce qu'il existe des personnes qui sont complètement acquittées, même après avoir comparu sur fond de mandat de comparution, même après avoir, du fait de n'avoir pas déféré à deux mandats de comparution, fait objet d'un mandat d'amener. Et donc, même après avoir fait objet d'un mandat d'arrêt provisoire, parce que c'est une partie de la procédure pénale qui vient avant le juge, et il n'appartient qu'au juge d'établir l'innocence des personnes qui sont portées devant lui. Mais évidemment, le juge, lorsqu'il reçoit déjà le mandat d'arrêt provisoire au titre de pièce de procédure, il est en présence d'un justiciable sur qui il va statuer en chambre de conseil ou en audience ordinaire, mais qui est encore sous la main du procureur ou du procureur général selon le cas, parce que l'affaire est encore en instruction.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière et Jean de Kananga. Safari, bonjour.
Oui, bonjour. Et bonjour aussi à M. Lévité.
Quelle est votre question?
Alors, oui, je pense que par rapport aux thématiques du jour, j'ai une seule question à poser. C'est juste par rapport au mandat. Je vois localement ici quand un agent de la police nous appréhende, il nous amène au commissariat. Alors, après, quand vous êtes chassé de payer une amende, il me semble que l'argent et tout est destiné aux primes d'encouragement des policiers qui vous a saisi. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est vrai qu'après un mandat, on est chassé de payer encore une amende? Et pourtant, l'innocence aussi, j'écoute là-bas, l'innocence aussi existe, mais vous êtes chassé de payer une amende. Est-ce que c'est vrai? C'était ça ma question. Merci, une bonne journée.
Bien, merci. On va accueillir un autre auditeur. Il s'agit de Jean de Kananga. Bonjour. Bonjour, Jean.
Bonjour, radio. On continue. Bonjour à tous les invités.
Si vous êtes à côté de votre radio, merci de réduire sensiblement le volume. Il y a un bruit pas intéressant.
Je l'ai fait.
Ok. Veuillez vous éloigner de votre radio, Jean, s'il vous plaît. Ok. Allez-y maintenant.
Ah, j'ai une question concernant le mandat. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le mandat de dépôt et le mandat de comparution?
Différence entre mandat de dépôt et mandat de comparution. Maître Charles.
Il faut revenir d'abord sur la question qui a été préalablement posée et qui est d'une très très grande importance pour la population par rapport à la procédure qui se fait généralement devant la police et et qui est en fait une procédure de proximité en matière d'enquête criminelle. L'auditeur de tout de suite a parlé des amendes qu'il faut payer, qui sont de temps en temps payées devant la police ou même devant le parquet. Je voudrais rassurer le concitoyen en lui disant que le code des procédures pénales prévoit effectivement la possibilité de terminer une enquête criminelle ou une enquête pénale par le fait de paiement d'amendes transactionnelles. Ces amendes transactionnelles sont généralement payées lorsque les faits sont bénins, par exemple, sont légers, ne sont pas de nature à mobiliser toute une république, tout le ministère public pour fonder une accusation devant le juge et pour obtenir au bout de plusieurs audiences la condamnation à des peines qui pourraient être tout aussi légères ou peut-être même à l'acquittement. C'est une sorte de prémonition que là la police fait ou le parquet pour demander à la personne de ne pas de ne plus jamais retomber dans ce genre de fait, bien que bénin, mais qui n'occasionne en ce moment-là pas une poursuite, les poursuites au vrai sens du mot en termes de procédure engagée du parquet vers le juge de jugement. Et donc, lorsque les faits sont bénins, il est
par exemple, un cas d'endettement, par exemple. Quelqu'un qui a une dette d'autrui et qui ne veut pas payer.
Oui, mais aussi, il s'agit de ces mêmes amendes transactionnelles sont prévues pour des faits qui ne sont pas proprement parlés des infractions. C'est les cas des contraventions routières pour éviter de longues procédures qui coûteraient inutilement le temps, l'énergie et l'argent aux parties litigantes, aux parties en procès, et notamment l'État qui viendrait en ce moment-là en accusation. Alors, la question qui a suivi, c'était de faire la différence entre le mandat de dépôt et le mandat de comparution. Oui. Le mandat de comparution, c'est en fait un acte de procédure par lequel le ministère public demande à une personne sur qui pèse des accusations particulières de venir comparaître pour se faire entendre sur procès verbal afin que le magistrat du parquet établisse s'il y a oui ou non des faits infractionnels qui sont effectivement établis à sa charge. Tandis que le mandat de dépôt, il est pris par le ministère public dans le cadre de l'exécution d'une condamnation contre quelqu'un. Et donc, c'est un acte de procédure, une pièce de procédure par laquelle le ministère public, qui est en charge de l'exécution des jugements pénaux, appréhende la personne qui a été condamnée pour le déposer entre les mains de l'établissement carcéral où il est censé, un individu est censé purger sa peine telle que prononcée par le juge.
Voilà, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, pourquoi lorsque un politicien, par exemple, est fait l'objet d'un mandat, il doit faire beaucoup de bruit et puis s'amener avec de la fanfare et les militants du parti.
Il faut distinguer deux choses. Une chose qui est d'ordre sociologique, social, si vous voulez, et une autre qui est d'ordre juridique. Sur le plan social, reconnaissons quand même que notre justice ne fait pas beaucoup crédit et que le fait que beaucoup de magistrats se soient illustrés par des chantages quasi inutiles contre des citoyens, des acharnements parfois même, a fait que la justice, en plus du fait qu'elle est poreuse et suffisamment corrompue, s'est discréditée dans la masse. Alors les politiciens, comme ils n'ont que la rue à utiliser pour contrecarrer cet éventuel chantage, ils l'utilisent pour essayer de se protéger autrement lorsqu'ils n'ont absolument pas confiance en la justice. Et ça, c'est légitime dans une société, effectivement, où la justice institutionnelle s'est discréditée à ce point. Étant avocat, je peux le dire avec beaucoup de compétences, je fais face tous les jours à la police, tous les jours au parquet, tous les jours aux cours des tribunaux. Et donc, par moments, nous-mêmes, avocats, on est désemparés, on est très désagréablement surpris de voir comment et combien des détenteurs d'un pouvoir aussi important peuvent l'utiliser pour en abuser la portée. Alors, maintenant, sur le plan du droit, et ça, il faut peut-être reconnaître que, bon, notre société est en train de faillir, la justice institutionnelle qui devait être un rempart pour tout le monde, le pauvre comme le riche, et qui s'illustre plutôt par un caractère partisan et très très peu indépendant, on dirait même très peu professionnel, pousse les gens effectivement à se prémunir contre des sanctions qui pourraient s'avérer plus tard comme injustes. Il y a beaucoup de procès qui se sont tenus dans ce pays avec caméra et pour lesquels on a vu des condamnations, mais au fond de la poussière, sans aucune preuve matérielle, patente, que ce soit au pénal comme au civil, qui a effectivement motivé, qui a sous-tendu la décision du juge. Et on a beaucoup de jugements, justement, des cours des tribunaux, qui n'ont aucune motivation défendable sur le plan scientifique et technique, et qui font justement que toute personne qui est accusée aujourd'hui a tendance à se prémunir contre ce mauvais comportement, si je devais ainsi le dire, de la justice.
Bien, on va accueillir Boumedien de Lubumbashi. Bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour. Aujourd'hui, je commence par une question.
La liaison n'est pas bonne, Boumedien. Est-ce que vous pouvez bouger un peu? Boumedien, la communication n'est pas bonne. Je vais vous demander de bouger un tout petit peu. Peut-être que ça peut améliorer les choses. C'est fait? Allô?
Oui, je dis maintenant ça va.
Oui, ça va. Oui, ça va un peu mieux. Allez-y.
Je pose la question à notre invité.
Oui.
Qui est responsable de la mort d'un prévenu à la prison s'il est innocent, il n'est pas encore jugé? Ça, c'est ma première question.
Bon, là, ça ne concerne. Est-ce que vous pensez que c'est.
Je viens de perdre un voisin qui a été accusé abusivement de viol, mais qui n'a jamais été condamné. Il y a 4 mois qu'il était en prison, mais il y a une semaine, on vient de l'enterrer. Qui est responsable de sa mort? C'est le directeur des prisons, c'est le magistrat qui a inscrit son dossier, ou bien c'est
alors, Boumedien, vous voulez
qui n'a jamais venu confirmer son accusation?
Merci.
La deuxième question,
rapidement,
c'est pour savoir pourquoi, quand on amène un mandat d'amener, les magistrats font des pressions sur celui qui est venu répondre. C'est un peu ça, mes deux questions. Comme il y a la rue ici, je ne sais pas si vous me suivez très bien.
D'accord, on vous capte, on a capté vos questions. Merci. Maître Charles.
Je comprends très bien la frustration du concitoyen, notamment pour ce qui est de la dernière question. D'habitude, puisque les magistrats sont très mal payés, la pratique du mandat d'arrêt provisoire est devenue une pratique par laquelle le magistrat, en tout cas le parquet, se crée des ressources supplémentaires, notamment avec la pratique du cautionnement qui est payé pour que la personne qui est accusée recouvre une liberté provisoire. Et donc, c'est plutôt une pratique malheureuse, déplorable et même malhonnête, puisque à la fin, le cautionnement qui est payé n'est jamais inscrit dans les PV, dans les procès verbaux, entièrement tel qu'il a, il a été payé. Il est toujours minoré par écrit par rapport à ce que reçoit les magistrats. Et ensuite, puisque le cautionnement est toujours à rendre justiciable lorsqu'il est acquitté, lorsqu'il est établi qu'il est innocent, il n'est jamais rendu au justiciable qu'il a versé à la justice. C'est vraiment très malhonnête. On pourrait même dire que c'est un détournement de deniers privés par l'État lui-même, par les préposés de l'État. Et donc, je comprends que la frustration de l'autre. Généralement, lorsqu'ils font pression, c'est parce que il y a un intérêt financier, économique, en tout cas recherché derrière la procédure. Ça, c'est généralement. Bon, il pourrait y avoir des cas particuliers où des magistrats professionnels poursuivent vraiment et veulent conduire une enquête rapide, indépendante, impartiale, etc. Mais c'est extrêmement rare dans ce pays et de pratique, de mémoire d'avocat, je n'ai pas vu cet engagement professionnel, citoyen, qui pousse les magistrats, effectivement, à faire d'une procédure judiciaire un acte citoyen, un acte d'engagement, un acte préventif du crime. Et donc là, nous tous, nous sommes complètement
déboussolés,
surpris et très frustrés. Mmh. Alors, par rapport à la question qui a été posée avant et qui n'a presque pas de rapport avec ce qui a été le thème retenu pour le débat. Mmh.
On pourra
une question de responsabilité. Oui. Tout homicide est sanctionné par la loi, qu'elle soit volontaire ou involontaire, qu'il soit commis par une autorité ou pas par une personne qui ne l'est pas.
Elle est sanctionnée par la loi.
Il est constitutif d'infraction. Et donc, là, il me pose une question très théorique sur base de laquelle je ne peux pas avoir des réponses très cohérentes.
Maître Charles, on
me demande d'établir la responsabilité.
Maître
alors
Charles.
Que les faits...
Maître Charles, on aura l'occasion de revenir sur cette question-là au cours d'une autre émission. On n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Merci et à la prochaine.
Matete, merci.
Matete plutôt, oui.